Alors, le sujet du séminaire de Jacques Bouvresse de cette année est « La philosophie peut-elle être systématique et doit-elle l'être ?» C'est un sujet qui m'est apparu comme périlleux parce que c'est un sujet qui oblige à se confronter à des questions essentielles sur la pratique philosophique, si on veut vraiment le prendre au sérieux, et notamment sur la question du rôle de la philosophie et de l'objet de la philosophie. Et en même temps, évidemment, c'est un sujet qui m'est apparu aussi comme stimulant. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de tenter d'apporter une réponse ou de présenter le type de réponse que je voudrais essayer d'élaborer à cette question. Et je voudrais préciser, avant de commencer plus avant, qu'une telle approche m'apparaît pertinente ou valable uniquement dans la mesure où elle peut être instanciée, c'est-à-dire dans la mesure où elle peut être validée par un examen de questions particulières, hein, puisque là je vais rester à un niveau relativement méta ou général de réflexion sur la pratique philosophique elle-même. Alors, comme point de départ de mon examen, je voudrais prendre une citation d'un article de Sandra Laugier dans l'introduction à un numéro de la revue de métaphysique et de morale consacré au problème du naturalisme et quel type de naturalisme on peut défendre aujourd'hui. Donc, dans cette introduction, Sandra Laugier dit, je cite, « Il semble que le seul moyen de penser le naturalisme, si cela peut encore avoir un sens, serait de parvenir à penser cette circularité et cette immanence à la science, donc le premier naturalisme, un naturalisme scientifique, sans renoncer à penser la nature du langage, celle de nos accords, donc un second naturalisme social. Mais cette nature du langage en un sens renouvelé, notre nature de locuteur ou de victime de l'expression, pour reprendre une expression d'Emerson, renvoie alors à un troisième naturalisme. » Et ce que je voudrais essayer de faire d'une certaine façon, c'est de présenter une position qui dépasse et qui englobe ces deux formes de naturalisme, naturalisme scientifique et naturalisme linguistique. Et je voudrais essayer de présenter donc une position qui tienne compte des aspects qui me semblent pertinents dans chacune de ces conceptions du rôle de la philosophie, tout en les dépassant et en les combinant. Donc, pour situer brièvement les choses, cette approche du naturalisme scientifique, on peut dire qu'elle a été initiée par l'épistémologie naturalisée de Quine et qu'elle trouve des prolongements, notamment dans les sciences cognitives, dans la démarche des sciences cognitives, alors que l'autre pôle que je vais appeler la philosophie linguistique a également vu le jour au XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, et comme je le présenterai plus en détail, on peut en trouver deux versions, une version dans la philosophie du langage ordinaire et une version dans le prolongement de l'empirismologie qui est plus de reconstruction rationnelle. Bon, je vais revenir sur ces positions par la suite. En première approche, la différence entre ces deux types de grandes positions, de grandes conceptions de la philosophie, consiste dans le fait, enfin tient au fait que dans chacune de ces conceptions, l'objet de la philosophie est conçu de manière différente. Donc, selon la philosophie linguistique, l'objet de la philosophie, c'est le langage, ou plus précisément, les questions philosophiques sont des questions linguistiques et des questions de langage. Alors, il y a différentes manières, mais deux grandes façons de préciser cette idée selon laquelle les questions philosophiques sont des questions de langage. Une première façon consiste à dire que ce sont des questions dont la réponse consiste à énoncer des définitions, des règles d'usage ou des cadres linguistiques. Donc ça, c'est l'approche de la reconstruction rationnelle dans le prolongement de l'empirisme logique. Et une deuxième manière de donner sens à cette idée selon laquelle donc, toujours les questions philosophiques sont des questions de langage, consiste à dire que ces questions et ces problèmes philosophiques traditionnels doivent être abordés par un examen, une description de nos usages linguistiques ordinaires, de nos usages linguistiques effectifs. Et ça, c'est l'approche de la philosophie du langage ordinaire et du second Wittgenstein, principalement. Selon le naturalisme scientifique, les questions philosophiques sont non pas des questions de langage, mais des questions de fait et qui, en tant que telles, peuvent être résolues par les sciences de la nature ou les sciences empiriques. Voilà. Alors, comme exemple de questions philosophiques traditionnelles, on peut penser par exemple au problème du rapport entre le corps et l'esprit, ou au problème de la nature et du rôle de l'observation en sciences. Et donc, à chaque fois, selon ces deux grands types d'approches, ces questions traditionnelles vont être conçues soit comme des questions de langage, soit comme des questions de fait. Donc, chacune de ces positions que j'ai caractérisées brièvement suppose une distinction claire entre questions de fait et questions de langage, et par ailleurs que les questions philosophiques sont soit l'un, soit l'autre. Or, précisément, la position que je voudrais présenter ici et tenter de défendre consiste à dire ou est caractérisée par l'idée selon laquelle les questions philosophiques sont à la fois des questions de fait et des questions de langage. Donc je voudrais essayer de présenter une position qui dépasse ce dualisme question de fait, question de langage. Et cette idée est alors liée à une certaine conception du rôle de la philosophie, à savoir, je pense que la philosophie a pour tâche de mettre au jour les principes qui déterminent nos représentations, notamment nos représentations linguistiques, mais pas seulement, et c'est-à-dire les principes qui gouvernent la manière dont nous nous représentons et dont nous nous rapportons à un ensemble de faits déterminés dans le monde, qu'il s'agisse de nos pratiques humaines ou de faits de la nature, et que donc, à ce titre, les questions philosophiques sont à la fois des questions de faits et des questions d'ordre linguistique, en un sens que je vais essayer de préciser. Et à ce titre, la philosophie, en prenant pour point de départ tout un ensemble de faits empiriques, permet dans un second temps d'en restituer la cohérence et la systématicité en mettant au jour, hein, comme je l'ai dit, les principes qui constituent la manière dont nous représentons ces faits. Donc, avant de préciser plus en détail cette approche que je voudrais essayer de présenter et de défendre ici, je voudrais dans un premier temps examiner les raisons pour lesquelles je pense que les approches du naturalisme scientifique et de la philosophie linguistique sont insuffisantes ou insatisfaisantes en l'état. Donc, dans un premier temps, pourquoi le naturalisme scientifique n'est-il pas totalement satisfaisant à mon sens ? De manière schématique, on pourrait dire qu'une position de ce type viserait non seulement à résoudre les questions philosophiques en faisant appel à des résultats scientifiques, mais conduirait en outre à considérer que les questions philosophiques traditionnelles peuvent être retraduites en questions de fait, donc en questions portant sur des faits empiriques, et à ce titre, elles pourraient trouver à terme une réponse dans les différentes sciences de la nature, psychologie, physique, biologie, neurosciences, etc. Alors, comme exemple de ce type de position, on peut penser à l'idée selon laquelle, par exemple, la question du statut des états mentaux, quel est le statut des états mentaux, tels que la joie, la peine, etc. Donc, l'idée selon laquelle cette question pourrait être résolue par la localisation des aires cérébrales correspondant à chacun de ces différents états mentaux. Ou encore, pour prendre un exemple plus précis, on peut penser à l'affirmation selon laquelle on aurait montré que la volonté est dissociée du plaisir en montrant que le système neuronal correspondant à la récompense et au plaisir est distinct du système neuronal correspondant à la volonté. Alors, il y a deux manières possibles dont on peut envisager ce type de position. Soit sous la bannière d'un réductionnisme ontologique, soit sous la bannière d'un réductionnisme méthodologique. Un réductionnisme ontologique consisterait à prendre position sur le type de réalité qui est en jeu et à dire, par exemple, que les états mentaux, la nature des états mentaux, peut être réduite à la nature d'états cérébraux. Un réductionnisme méthodologique ne prendra pas position sur ce type de questions ontologiques, sur la nature, par exemple, des états mentaux, mais sur la manière dont on peut résoudre ou formuler la question sans passer sur le plan ontologique. Dans les deux cas, il me semble néanmoins problématique de considérer que le problème philosophique, la question philosophique traditionnelle, n'est au fond qu'un problème de fait empirique et peut être réduite à un problème de fait empirique traiter comme tel. Et à ce titre, recevoir une réponse entièrement en termes scientifiques. Alors, une première raison pour laquelle ce type de position s'avère insatisfaisant, me semble-t-il, c'est que, tient en premier lieu au fait qu'il n'est pas du tout évident de pouvoir fournir directement une interprétation philosophique de résultats empiriques et de résultats scientifiques. C'est au contraire une question philosophique véritable que de savoir quel est le lien entre états mentaux et états physiques, ou plus généralement, quelle est la pertinence des résultats empiriques pour les problèmes philosophiques. En d'autres termes, je pense que les problèmes philosophiques sont sous-déterminés par rapport aux résultats des sciences empiriques. Et c'est une question philosophique elle-même que de savoir quel est le lien entre les deux et quelle est la pertinence des résultats empiriques. Par ailleurs, et de manière plus fondamentale, me semble-t-il, ce type de position repose, dans tous les cas, sur un présupposé réductionniste, souvent non explicite, et, par exemple, sur l'idée selon laquelle les états mentaux ne sont rien d'autre que des états neuronaux, ou bien la notion de volonté peut être retraduite en termes neuronaux. Et le point important, c'est qu'en affirmant cela, donc ce présupposé réductionniste implicite, on impose de manière non explicite des normes pour l'usage de nos termes. Et il me semble que cela contredit le principe même du naturalisme, dans la mesure où il n'est possible de considérer que les problèmes philosophiques, tels qu'ils sont traditionnellement formulés, trouvent des solutions directes dans les résultats qui sont fournis par les sciences empiriques, que dans la mesure où on admet que ces problèmes sont exclusivement des problèmes empiriques. Mais dire cela, c'est imposer une norme qui guide fondamentalement toute l'enquête et c'est adopter un présupposé normatif massif, alors même que l'on affirme explicitement vouloir abandonner toute position normative pour embrasser un naturalisme scientifique, donc qui reste au niveau d'une description des faits. Mais finalement, pouvoir maintenir ce type de position implique, me semble-t-il, fondamentalement d'adopter un présupposé normatif, et ça me semble poser problème. Alors, d'un autre côté, pourquoi la philosophie ou l'approche de la philosophie linguistique qui consiste à considérer que les problèmes philosophiques sont des problèmes ou des questions exclusivement linguistiques, pourquoi cet autre type d'approche est-il problématique ou pas totalement satisfaisant? Alors, je vais examiner dans un premier temps la première branche de la philosophie linguistique que j'ai mentionnée, à savoir celle de la philosophie du langage ordinaire, qui est un type de position qui viserait à résoudre, ou plutôt à dissoudre ou à contourner, les questions philosophiques traditionnelles, telles qu'elles sont traditionnellement formulées, et donc à contourner ces questions en les remplaçant, pour ainsi dire, par une description de nos usages linguistiques variés. En effet, dans une telle perspective, les problèmes philosophiques tels qu'ils sont traditionnellement formulés seraient illusoires et demanderaient à être reconsidérés sous un jour radicalement nouveau par la distinction de nos usages linguistiques variés dans des contextes à chaque fois particuliers et spécifiques. Et cette description, cette mise au jour de la variété de nos usages ferait apparaître précisément le caractère illusoire des problèmes philosophiques qui tiendrait à une volonté d'unification ou d'abstraction abusive de la part des philosophes traditionnels. Alors, comme exemple, pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, on peut penser au problème philosophique de l'existence des autres esprits, tel qu'il a été formulé par Descartes dans les Méditations métaphysiques. De manière bien connue, Descartes se demandait « Comment puis-je être certain que les hommes que je vois par ma fenêtre portant chapeau et par-dessus ont bien une conscience et un esprit comme moi-même et ne sont pas simplement des automates dénués de toute conscience ?» Alors, dans le cahier bleu, dans les années 30, Wittgenstein a tenté de montrer qu'une telle formulation du problème, donc du statut ou de l'existence des autres esprits, était trompeuse et tenait ou découlait d'une volonté de systématisation trompeuse de nos usages linguistiques, à savoir le fait que le philosophe attendrait que l'attribution d'états mentaux à en troisième personne, par exemple, lorsqu'on dit d'une personne « elle a mal », fonctionne de la même manière que l'attribution des états mentaux en première personne, lorsque l'on dit « j'ai mal », l'attribution des états mentaux en première et en troisième personne fonctionne de manière différente, et le problème philosophique de l'existence des autres esprits tient au fait que le philosophe voudrait ou tenterait de là, excusez-moi, mais là j'ai une. Tiens, en fait, que le philosophe voudrait que l'usage, l'attribution d'états mentaux en première et troisième personne fonctionne de la même manière, ce qui n'est pas le cas. Les critères d'attribution et le fonctionnement même des expressions dans les deux cas est distinct. Et Wittgenstein affirme qu'il faut accepter cette variété et le fait que l'on n'attribue pas. Oh, je m'embourbe, c'est horrible. Donc, il suffirait de noter, d'accepter la dissymétrie entre l'attribution d'états mentaux en première personne et en troisième personne pour que la question philosophique de l'existence des autres esprits soit contournée et apparaisse de manière illusoire, et pour réaliser que le problème philosophique dans sa formulation traditionnelle n'est pas fondé. Un autre exemple classique auquel on peut penser est celui de l'objet de la perception. Quel est l'objet de la perception ? Est-ce que nous percevons des impressions sensibles, par exemple de rouge, de chaud, etc., ou bien des objets physiques ? La table devant moi, une pomme, etc. Dans le langage de la perception, qui vient d'être traduit en français et qui est paru aux éditions Vrin, Austin montre qu'une telle formulation du problème n'a pas lieu d'être. Et pour cela, il s'appuie sur la description de la variété de nos usages du terme « voir » notamment, et montre que dans des contextes particuliers et spécifiques, la question de savoir quel est l'objet de la perception ne pose pas problème et est résolue de manière parfaitement satisfaisante sur des critères du sens commun. Donc le fait de restituer ou de retrouver la variété de nos usages et des descriptions, notamment de ce que l'on voit dans des contextes à chaque fois particuliers, met au jour le caractère illusoire des problèmes philosophiques qui tient à la volonté d'unification et d'abstraction abusive du philosophe. Donc, dans cette perspective, le point de vue normatif du philosophe s'avérerait inadéquat, car il consiste à imposer de l'extérieur et de manière abstraite, là encore, des normes à notre discours, et notamment la norme selon laquelle nos usages devraient être uniformes. Contre cela, le rôle véritable et approprié du philosophe est de révéler l'inadéquation d'une telle perspective abstraite en replaçant nos usages dans leur contexte à chaque fois particulier et varié. Et donc, les impasses du point de vue traditionnel, normatif et abstrait sont surmontées, semble-t-il, par le rejet de toute abstraction au profit de ce qui peut devenir finalement un contextualisme radical et au profit d'un point de vue qui s'attache exclusivement au relevé des variations dans l'usage de nos termes. Mais il me semble qu'une telle approche peut éveiller une certaine insatisfaction dans la mesure où décrire ou mettre au jour la variété de nos usages ne nous aide en rien à comprendre pourquoi il en va ainsi. Pourquoi est-ce que nous utilisons nos termes de manière différente et pourquoi est-ce que nous utilisons des mêmes termes, de mêmes expressions de manière différente. Donc, qu'est-ce qui fonde nos usages spécifiques dans des contextes particuliers et dans quelle mesure ces différents usages sont-ils unifiés ou du moins cohérents et non contradictoires ? Quel est, par exemple, le rapport entre les différents usages du terme « voir » et qu'est-ce qui légitime le fait ou qu'est-ce qui explique le fait que l'on peut, à la fois, dans certains contextes, dire que nous voyons des impressions visuelles et dans d'autres contextes, dire que nous voyons des objets physiques de manière non problématique ? Ou bien, qu'est-ce qui légitime le fait que nous puissions exprimer de la douleur en première personne ou décrire le fait que une personne ressent de la douleur donc en troisième personne, avec des fonctionnements différents de l'expression avoir mal en première et en troisième personne, et néanmoins, il s'agit de la même expression, donc qu'est-ce qui permet de rendre compte de ce caractère unifié ou cohérent de nos usages variés dans des contextes différents. Il me semble qu'une manière de comprendre ou d'expliquer ce caractère unifié de nos usages implique précisément de se poser la question du rapport entre ces usages linguistiques et les faits empiriques qui les sous-tendent ou auxquels ils sont reliés d'une manière qui reste à expliciter. Donc, pour le dire brièvement, cette approche de la philosophie du langage ordinaire ne permet pas, à mon sens, de rendre compte de la cohérence de nos usages, précisément en raison du fait qu'elle fait abstraction d'un examen des faits empiriques correspondants. Alors, je voudrais discuter à présent de l'autre branche de la philosophie linguistique que j'ai évoquée et qui consiste à considérer au contraire que le rôle du philosophe est de mettre au jour, de proposer ou de reconstruire le langage au moyen duquel nous exprimons des connaissances et pour cela que le philosophe se doit dénoncer de manière précise et claire le système des règles qui déterminent ce langage. Il s'agit de l'approche de la reconstruction rationnelle que l'on trouve de manière caractéristique, qui a été initiée par les empiristes logiques et par Carnap au premier chef. Et dans cette perspective, clairement, la philosophie est une entreprise systématique et de systématisation. Donc si on prend de nouveau le problème de la relation entre impression sensorielle et objet physique, dans cette perspective, ce problème va consister à s'interroger sur les rapports possibles entre les termes qui désignent des impressions sensorielles et les termes d'objets physiques. Donc sur le type de rapport et de place que ces termes occupent dans un langage formalisé qui obéit à un système de règles linguistiques. Par exemple, on pourrait déterminer un langage dont les termes primitifs sont des termes d'impression sensorielle et à partir de là, définir selon différentes procédures, procédés formels, des termes, les termes d'objets physiques, ou bien on pourrait considérer un langage dont les termes primitifs sont à la fois des termes d'objets physiques et des termes d'impression sensorielle, et s'interroger dans un second temps sur le type de relation entre ces deux termes et entre les propositions dans lesquelles figure le type de relation inférentielle entre les propositions dans lesquelles figurent ces deux types de termes. Donc la question traditionnelle de la relation entre impression sensorielle et objet physique se voit ici traduite dans la question des relations formelles au sein d'un langage déterminé entre différents types de termes. Donc la question est là encore, la question philosophique est là encore conçue comme étant fondamentalement une question exclusivement linguistique, mais à la différence de l'approche en termes de langage ordinaire, l'enjeu est non pas de décrire nos usages effectifs, la manière dont effectivement nous utilisons ou nous parlons d'impressions sensorielles ou d'objets physiques, mais de déterminer des langages systématiques et unifiés par un système de règles. Donc c'est en ce sens que cette approche peut être caractérisée en termes de reconstruction rationnelle. Le point essentiel qui caractérise en outre ce type d'approche, telle qu'elle est développée notamment par Carnap, consiste à dire que les principes qui régissent donc un tel langage, les règles linguistiques, autrement dit, sont établies de manière conventionnelle. Alors, ce que cela signifie exactement et quel est le sens du terme convention ici est une question complexe qui demanderait à être examinée sur la base d'une étude textuelle détaillée. Le point que je voudrais souligner, c'est qu'une caractéristique de telles règles, lorsque l'on dit qu'elles sont conventionnelles, tient au fait que, en tant que principe normatif du langage, ces règles sont vides de tout contenu informatif. Donc, à la différence des énoncés qui vont être formulés à l'intérieur du cadre linguistique que ces règles constituent et qui vont, eux, exprimer véritablement une connaissance sur des faits particuliers du monde, les règles qui déterminent la machinerie linguistique, qui constituent le cadre linguistique au sein duquel des énoncés factuels vont pouvoir être formulés, Ces règles elles-mêmes n'ont aucun contenu, elles ne nous disent rien sur le monde ni sur aucun fait. Et c'est en ce sens qu'elles sont conventionnelles et vides de contenu. Donc on a deux idées conjointes. L'objet de la philosophie est de mettre au jour des règles linguistiques ou plus généralement, peut-on dire, des principes normatifs qui déterminent nos représentations linguistiques. Et ces principes sont vides de contenu. Ils sont établis conventionnellement, indépendamment de toute prise en considération des faits empiriques. Donc, en d'autres termes, l'enquête philosophique se distingue radicalement de l'enquête scientifique, puisqu'elle est menée indépendamment, là encore, de toute prise en considération des faits. Elle s'attache uniquement à nos modes de description. Voilà. Alors, il me semble que cette idée selon laquelle le rôle de la philosophie est de mettre au jour les principes qui guident nos représentations, comme je l'ai dit au début, est pertinente. Mais la manière dont cette idée est formulée ou instanciée dans le cadre de pensée que je viens de présenter de la reconstruction rationnelle me semble problématique. Et donc, pour préciser le statut des principes que la philosophie a pour rôle de mettre au jour, à mon sens, je voudrais m'attacher relativement brièvement au problème de la conception du statut de ces principes normatifs dans le cadre de l'approche rationnelle, de reconstruction rationnelle. Alors, comme je l'ai mentionné, Carnap est le philosophe qui a poussé le plus loin ce type d'approche. Et dans un article consacré à la conception de la syntaxe logique qui est défendue par Carnap dans les années 30, Jacques Bouvresse décrit comme suit à la fois la conception de Carnap et ce qui pose problème dans cette conception. Je cite Jacques Bouvresse ici. Il n'est pas possible, donc selon Carnap, de trancher directement une question philosophique comme « le monde des choses est-il réel ?» telle qu'elle est habituellement formulée, puisqu'elle n'a pas de signification véritable et que nous n'avons pour le moins aucune idée claire de ce qui est réellement demandé, ni de ce qui est réellement en jeu, donc selon l'approche traditionnelle, la formulation traditionnelle. Mais une fois que l'on a donné à la question une forme intelligible et acceptable en la traduisant de manière appropriée dans le mode formel du discours, donc en termes uniquement, qui portent uniquement sur les caractéristiques formelles d'un langage formalisé, un philosophe carnapien ne ressentirait plus aucun besoin de tenter d'y apporter une réponse. Alors, le point problématique qui sous-tend cette citation et que Jacques Bouvresse met ici en lumière est celui selon lequel les questions philosophiques ne seraient finalement que des questions de convention linguistique et que, à ce titre, elles ne pourraient recevoir aucune réponse substantielle. Il faut, me semble-t-il, distinguer ici deux idées. La première idée est celle selon laquelle les questions philosophiques ne sont que des questions de langage, plus précisément des questions de règles linguistiques qui ont trait à la machinerie linguistique, au cadre linguistique. Et deuxièmement, l'idée selon laquelle, à ce titre, les questions philosophiques ne peuvent recevoir de réponses que conventionnelles et donc pas de réponses véritables, pas de réponses substantielles. Et il y a, me semble-t-il, deux éléments dans la critique de Jacques Bouvresse dans cet article à l'égard de la position, du type de position carnapien défendu par Carnap. Jacques Bouvresse rejette, d'une part, l'idée selon laquelle proposer une convention permettrait de répondre au problème philosophique tel qu'il est traditionnellement formulé, et d'autre part, l'idée selon laquelle toute question de langage est une question de convention. Donc ce sont là deux idées qu'il est important de distinguer et qui sont toutes deux problématiques. Alors, je voudrais pour ma part souligner les éléments de la position de Carnap qui me semblent aller dans le sens opposé, même si ces éléments restent peu développés dans la pensée de Carnap lui-même. En premier lieu, pour Carnap, proposer un cadre linguistique, c'est répondre véritablement à la question traditionnelle, telle qu'elle est reformulée de manière pertinente en termes, dans le mode de discours formel, donc en termes de relations entre des termes linguistiques. Ce n'est évidemment pas la même chose de dire cela et de dire que le problème est dissous ou disparaît comme on pourrait le dire, dans la perspective de l'approche thérapeutique de type Wittgensteinien ou dans le type d'approche de la philosophie du langage ordinaire que j'ai présenté précédemment. Et c'est un point qui me semble important, mais je ne vais pas m'attarder sur ce point. Une autre idée importante est qu'une telle réponse, dans la perspective de Carnap, si elle est conventionnelle, elle n'est pas pour autant entièrement arbitraire. Différentes réponses peuvent au contraire être évaluées selon certains critères d'adéquation pragmatique. En d'autres termes, on peut certes proposer différents cadres linguistiques qui correspondent chaque fois à différentes reformulations de positions philosophiques traditionnelles, entre lesquelles, entre ces différents cadres linguistiques, il n'y a pas de critères de choix qui permettraient de considérer que l'un des cadres est plus vrai qu'un autre ou est justifié d'une manière plus appropriée, plus adéquate qu'un autre. En revanche, il est possible de juger que tel cadre est plus utile ou plus approprié à des fins ou à des buts donnés. Donc il y a des critères d'adéquation pragmatique qui limitent l'arbitraire ici. En outre, l'affirmation selon laquelle toute question philosophique est exclusivement une question de langage et à ce titre exclusivement une question de convention, cette affirmation néglige, me semble-t-il, un autre élément important de la pensée de Carnap, à savoir l'idée selon laquelle la reconstruction rationnelle a des fondements empiriques, ou plus précisément l'idée selon laquelle les problèmes philosophiques traditionnels peuvent être reformulés d'une part en termes de questions linguistiques, en termes de choix, de règles déterminées pour un langage, et d'autre part, en termes de faits empiriques. Par exemple, dans « La construction logique du monde », premier grand ouvrage de Carnap, publié en 1928, le point de départ de la reconstruction formelle de la constitution de la connaissance et les résultats qui sont fournis par les sciences de la nature, plus précisément par la psychologie et la gestalt psychologie, qui donne le point de départ du système de constitution de Carnap. Ou encore, dans un article de 1936-37, Stability and Meaning, cet article est consacré à l'examen de la notion de confirmabilité et des différentes manières dont on peut concevoir ou expliciter l'idée selon laquelle les énoncés scientifiques peuvent être confirmés sur la base d'expériences. Donc, dans cet article, Carnap distingue clairement deux moments de l'élucidation de cette notion de confirmabilité. Un moment en termes d'analyse logique, des rapports inférentiels entre différents types de propositions ou des différentes manières dont on peut définir les prédicats scientifiques. Et un second moment en termes d'analyse empirique, où notamment la biologie et la psychologie ont pour rôle de déterminer ce que cela signifie de dire qu'une entité ou qu'un objet est observable, notamment. Et c'est là un moment empirique, d'analyse empirique de l'approche de la confirmabilité. Mais fondamentalement et finalement, même s'il y a ces éléments qui viennent de la pensée de Carnap qui sont importants, me semble-t-il, et qui viennent contrebalancer donc, l'idée selon laquelle les problèmes philosophiques traditionnels seraient exclusivement des questions linguistiques, conventionnelles, et entre lesquelles il n'y aurait pas de critères de choix possibles, le point qui reste massivement adopté par Carnap est l'idée selon laquelle le philosophe n'a pour rôle que de s'occuper de l'aspect linguistique et exclusivement linguistique du problème. Même si cela ne signifie pas, hein, comme j'ai essayé de le montrer, que le philosophe ne propose pas de réponse, ni que ses réponses sont arbitraires, ou que l'investigation philosophique est totalement coupée de l'investigation empirique. Mais donc, ce qui reste fondamentalement problématique, c'est le fait de considérer que l'enquête philosophique est de nature exclusivement linguistique, que le problème philosophique lui-même n'est au fond qu'une question de langage. Et cette position problématique se manifeste dans le fait que les cadres linguistiques, selon Carnap, ne seront confronté que dans un second temps aux faits ou aux pratiques et des scientifiques notamment, et jugé plus ou moins utile dans un second temps. Donc si l'on veut pouvoir proposer une réponse satisfaisante et adéquate aux problèmes philosophiques traditionnels, il faut, me semble-t-il, pouvoir dépasser cette alternative conventionnalisme-factualisme. Et il faut pouvoir penser qu'un tel problème n'aura de solution satisfaisante que si la question linguistique est résolue avec l'examen, en lien avec l'examen des faits empiriques pertinents. Popper s'est fait le critique virulent de cette approche linguistique des problèmes philosophiques, donc d'une approche exclusivement en termes de signification, telle que celle qu'il attribuait aux membres du Cercle de Vienne. Et dans un article publié en 1976, Jacques Bouvresse met en lumière de façon particulièrement claire, me semble-t-il, les présupposés qui sous-tendent ce type de critique. Et il énonce le caractère dual, précisément, des problèmes philosophiques en ces termes, je cite, « Il est clair que ceux qui accordent une attention exclusive aux questions de mots ou de signification et ceux qui les récusent par principe ont en fait un présupposé commun. Les uns et les autres tiennent implicitement pour acquise une distinction tranchée entre ces questions-là et les questions d'un autre type, les questions de fait ou de vérité. Mais précisément, l'existence même d'une distinction de ce genre pose un problème philosophique fondamental. Aussi bien Quine que le second Wittgenstein ont fourni, dans des perspectives très différentes, des arguments qui montrent que, sauf dans des cas relativement triviaux et parfaitement anodins du point de vue philosophique, un problème n'est jamais purement de fait ou purement de mots. » Donc, cette citation de Jacques Bouvresse me paraît essentielle et montre bien qu'il faut distinguer deux questions. La première question est la suivante. Est-il possible de distinguer entre questions de fait et questions de mots ou de langage ? Et la seconde question concerne les problèmes philosophiques et consiste à se demander si les problèmes philosophiques peuvent être exclusivement des questions de fait ou des questions de mots. Alors, contre les approches du naturalisme et de la philosophie du langage ordinaire, je voudrais maintenir, c'est ce que j'ai mentionné, que le rôle de la philosophie est de mettre au jour les principes qui déterminent nos pratiques linguistiques et que, à ce titre, la philosophie ne peut pas être exclusivement descriptive, d'une part, et d'autre part, qu'elle doit prendre en considération aussi bien des faits empiriques que des faits de langage. Et donc, aussi bien le dualisme fait-langage que le dualisme conventionnalisme-factualisme doit être ici dépassé. Alors, pour dire les choses de manière peut-être un peu plus claire, il me semble qu'on peut tracer une ligne de démarcation entre les trois types de positions que j'ai présentées et discutées brièvement, à savoir le naturalisme scientifique, la philosophie du langage ordinaire et la reconstruction rationnelle, de deux manières différentes. Une première façon de tracer la démarcation entre ces trois types de positions consiste à mettre la philosophie du langage ordinaire et le naturalisme scientifique dans une même catégorie et la reconstruction rationnelle dans une autre, à savoir le naturalisme scientifique et la philosophie du langage ordinaire comme deux positions descriptives. Dans les deux cas, il s'agit de décrire des faits empiriques pour le naturalisme scientifique et des usages linguistiques, nos pratiques linguistiques effectives pour la philosophie du langage ordinaire. Par distinction avec cela, l'approche en termes de reconstruction rationnelle consiste à énoncer des normes et non pas à décrire simplement des faits, à énoncer des normes de notre discours et des normes qui déterminent des langages formels. Donc ça, on a un premier type de dualisme ici, factualisme, conventionnalisme ou description norme. Une deuxième manière de tracer la limite entre ces trois types de positions consiste à mettre dans le même sac, si je puis dire, la philosophie du langage ordinaire et la reconstruction rationnelle, qui toutes deux sont des positions selon lesquelles l'objet des problèmes philosophiques est des questions linguistiques, comme je l'ai montré, et de l'autre côté, le naturalisme scientifique qui considère que les questions philosophiques sont des questions de faits empiriques. Donc là, on a un dualisme fait-langage. Le type de position que je voudrais essayer de défendre impliquerait de dépasser à la fois ces deux types de dualisme et de considérer que l'objet des questions philosophiques est aussi bien les faits de la nature ou les pratiques humaines ou les faits linguistiques, nos usages étant un type de fait particulier. Donc il n'y a pas lieu de maintenir un dualisme fait-langage comme s'il s'agissait de deux domaines d'objets radicalement distincts. Et d'autre part, à surmonter le dualisme norme-description, dans la mesure où c'est à partir d'un examen compréhensif des différents types de faits disponibles et pertinents pour la question philosophique traditionnelle, à savoir aussi bien des faits naturels décrits par les sciences de la nature que des faits linguistiques, c'est à partir donc d'un examen de ces différents types de faits que le philosophe a pour rôle de restituer la cohérence de ces faits et donc de mettre au jour les principes qui guident et qui unifient ces différents types de faits. Donc sans se limiter à une approche purement descriptive, mais sans pour autant imposer des normes de l'extérieur. Alors plus précisément, quel est le statut de ces principes qui guide nos représentations, notamment nos représentations linguistiques, et que le philosophe a pour rôle de mettre au jour. Dans un article de 1997, intitulé « Logical Grammar, Transcendentalism and Normativity », John Skorupski formule de manière particulièrement claire, me semble-t-il, cette question du statut des principes de nos représentations. Et tout d'abord, il dresse de la façon suivante le diagnostic de l'échec de l'approche des acteurs du tournant linguistique, hein, donc de la reconstruction rationnelle que j'ai présentée précédemment. Je cite Skorupski. La nouvelle position critique, donc celle de la reconstruction rationnelle, présente des défauts fondamentaux avec sa conception d'une règle de langage et son contraste exhaustif entre des phrases exprimant des règles de langage et des phrases exprimant des affirmations factuelles au sein du langage. Mais si elle ne tient pas, le point de vue de la grammaire logique ne permet pas plus de défendre une philosophie critique que ne le pouvait l'idéalisme transcendantal. Fin citation. Donc, comme je l'ai évoqué, les empiristes logiques ont défendu une conception de la philosophie qu'on peut qualifier de critique ou de normative. Et l'échec de cette approche tient, selon Skorupski, au fait que ces philosophes n'ont pas proposé de conception satisfaisante des principes que le philosophe avait pour but de formuler. Et le problème tient au fait que de tels principes, de telles normes linguistiques sont conçus comme étant a priori dépourvus de tout contenu, et donc conjointement avec l'idée selon laquelle tout contenu est factuel. Si tout contenu informatif est à la fois factuel et a posteriori, et si les principes ne peuvent être a posteriori en tant qu'ils sous-tendent nos représentations, alors ils sont a priori et vides de tout contenu et ne sont pas informatifs. Cependant, Skorupski affirme que les règles de langage, les principes qui guident nos représentations, semble ne pas pouvoir être rangé sous la catégorie de l'a priori conventionnel, indépendamment de tout fait empirique ou de tout contenu. Par exemple, comme exemple de telle règle, on peut prendre l'énoncé suivant, et c'est un exemple de Skorupski. Étant donné la convention qui gouverne l'usage du terme F dans le langage que j'utilise, et étant donné les propriétés que cela, donc cet objet, a, il est correct d'appeler cela F. On voit bien ici qu'il n'est pas possible de considérer qu'un tel principe est indépendant de toute prise en considération des faits empiriques, puisqu'il y a bien la question de savoir quelles sont les propriétés empiriques du fait en question, du fait désigné par le terme selon une certaine convention. Alors, contre donc l'approche qui consisterait à dire que de tels principes sont a priori vides de tout contenu, Skorupski propose de dire que de telles propositions ont bien un contenu, seulement ce contenu n'est pas factuel, mais il s'agirait d'un contenu informatif normatif. Donc il y aurait à côté du contenu informatif factuel un autre type de contenu qui serait un contenu proprement normatif. Il est alors conduit à affirmer que de tels principes ne peuvent être vrais ou fausses, puisque aucun fait ne leur correspond. Cependant, affirme-t-il, elles obéissent à une sémantique vériconditionnelle en un sens minimal. Et il me semble que cette idée d'un contenu normatif non factuel est problématique et le conduit à une position qui finalement est parcourue par une tension non résolue et qui se manifeste notamment lorsqu'il affirme, je cite, « Le point de vue normatif distingue parmi les propositions synthétiques entre le normatif et le factuel, et cette distinction est parallèle d'un point de vue structurel à celle que fait Kant entre l'a priori et l'a posteriori, mais il n'y a pas de parallèle au niveau ontologique. » Fin de citation. Donc on a cette position qui est à la fois détachée des faits empiriques, tout en étant informative, mais de manière non factuelle, qui me semble insatisfaisante finalement. Je serais d'accord avec Skorupski ou l'approche de la reconstruction rationnelle pour dire que si la philosophie doit rendre compte de la cohérence de nos représentations, et notamment nos représentations linguistiques, elle ne peut se contenter de décrire la manière dont ces représentations fonctionnent. Mais d'un autre côté, si elle doit proposer des réponses adéquates aux problèmes philosophiques traditionnels, elle ne peut pas se contenter non plus d'imposer de manière a priori et abstraite des principes normatifs qui ne répondraient d'aucune manière à aucun fait empirique. Donc c'est là le point véritablement crucial, me semble-t-il. Donc il ne s'agit pas de proposer des définitions, ni de découvrir certains faits spécifiques, mais de mettre au jour les principes qui guident les ressorts de nos représentations linguistiques. En d'autres termes, l'analyse philosophique a pour rôle de mettre au jour les principes qui guident les conditions d'application de nos termes, ces conditions étant déterminées sur la base de caractéristiques de certains faits empiriques. Et on notera ici, je l'ai mentionné auparavant déjà, mais que les faits en question sont aussi bien de nature linguistique que de nature naturelle, pourrait-on dire. Donc on a bien un dépassement de l'alternative mot-chose ou langage-fait. Alors, comme pour rendre les choses un peu plus précises, je voudrais prendre un exemple illustrer ce que je viens de dire de manière tout à fait générale par un problème particulier, à savoir le problème de l'observation en science. Donc cette question du rôle de l'observation en science est une question centrale en philosophie des sciences, et afin de pouvoir y répondre de manière satisfaisante, il sera nécessaire en premier lieu de préciser ce que l'on entend ici par observation scientifique. Et pour cela, l'analyse philosophique devra procéder en plusieurs étapes que je voudrais présenter brièvement pour illustrer ce que j'ai dit de manière générale sur le rôle et l'objet de la philosophie. Une première étape consistera à examiner nos usages linguistiques, effectifs, et un tel examen consistera en premier lieu à s'interroger sur les cas dans lesquels les scientifiques, par exemple, parlent d'observation. Une première manière de caractériser l'usage consistera ici à caractériser le type de contexte dans lequel le terme qui est l'objet du problème philosophique est employé. Et il s'avérera que, par exemple, dans le contexte de la pratique scientifique, le terme observation est utilisé de manière caractéristique lorsqu'il est question non seulement de l'observation à l'œil nu, comme c'est le cas dans les contextes ordinaires, mais aussi de l'observation au moyen d'instruments particuliers, tels que les télescopes, les microscopes optiques ou les microscopes électroniques, par exemple. Un deuxième aspect de la caractérisation de l'usage linguistique consistera à s'interroger sur le type de rapport conceptuel et inférentiel dans lequel le terme en question est pris. Par exemple, par contraste ou en lien avec quels autres termes, le terme « observation » est-il utilisé ? On remarquera par exemple que le terme observation est distingué par l'usage aussi bien des termes perception et expérience que des termes détection et mesure. Et à partir de là, on pourra tenter de déterminer quelles sont les différences entre ces différents termes et quels sont les rapports inférentiels entre eux. Par exemple, lorsque nous parlons d'observation, il semble que nous présupposions une certaine relation entre un observateur et un objet observé. Est-ce que nous impliquons également par là que l'observateur est un être humain, par exemple? Ou bien est-ce que l'on pourra dire que n'importe quel récepteur présentant telle et telle caractéristique physique peut observer un événement? Dire que l'objet B est observé par A implique-t-il quelque chose quant à la position spatio-temporelle de B et de A? Cela a-t-il des implications quant au type d'entité qu'est B? Ou bien, pour prendre un autre exemple, lorsque nous disons que A cause B, que l'événement A cause l'événement B, impliquons-nous que A s'est produit antérieurement à B, quel que soit le type d'événement A et le type d'événement B? Disons-nous que l'occurrence de B, étant donné A, est nécessaire ou pas, et en quel sens? Donc, à chaque fois, on s'interrogera sur le type sur les schémas d'inférence caractéristiques de l'usage de termes qui sont l'objet du problème ou de l'enquête philosophique. Donc, aussi bien dans la première étape qui consistait à examiner le type de contexte dans lequel le terme est employé que dans la deuxième étape dans laquelle il s'agissait de s'interroger sur le type de rapport conceptuel et inférentiel dans lequel le terme est pris, il s'agit à chaque fois de questions de langage. Je pense que là, la distinction entre questions de langage et questions de fait reste pertinente, mais si on voit bien que ces questions de langage sont des questions de fait linguistique aussi. Donc, il n'y a pas de dualisme ici. Mais néanmoins, l'idée selon laquelle les questions philosophiques sont en partie des questions de fait linguistique reste pertinente. Une deuxième étape de l'analyse consistera à examiner les phénomènes non linguistiques concernés par le problème. Donc, toujours pour reprendre notre exemple de l'observation scientifique, on pourra remarquer en premier lieu que différentes sciences décrivent différentes caractéristiques des processus observationnels. Par exemple, la physique décrit l'observation comme un processus passif impliquant une source et un récepteur entre lesquels on peut identifier une chaîne causale ou entre lesquels on peut décrire un transfert d'informations. D'un autre côté, la physiologie et la psychologie comportementale décrivent les schémas d'activité sensorio-motrice qui sont impliqués lors de processus observationnels. Par exemple, le fait que l'œil se meuve d'une certaine manière, que les sensations visuelles sont intégrées à un schéma d'activité potentiel et associées à d'autres impressions sensorielles possibles, etc. Donc, on a d'un côté un ensemble de faits linguistiques, d'un autre un ensemble de faits que l'on peut qualifier de naturels et décrits par différentes sciences, et donner une réponse satisfaisante à la question philosophique de savoir ce qu'est l'observation en science impliquera, selon la conception de la philosophie que je défends ici, de prendre en considération ces deux types de faits qui ont été mis au jour et cartographiés, pour ainsi dire, lors d'une première étape de l'enquête, et de mettre au jour la manière dont ces types de faits sont articulés entre eux ou pas. En effet, il se peut que certains éléments, par exemple, de nos usages linguistiques ne soient pas compatibles. Les présupposés selon lesquels tout observateur est un être humain et celui selon lequel tout récepteur adéquatement caractérisé peut être qualifié d'observateur dans certaines circonstances, ces deux présupposés ne sont pas compatibles. Si on privilégie le second, il s'ensuit qu'il s'avérera difficile de rendre compte de la distinction entre observation et détection, puisque tout récepteur adéquatement caractérisé peut valoir pour déterminer un cas d'observation. Donc, dans ce cas-là, on n'aura pas de distinction caractéristique entre observation et détection. En revanche, si on privilégie le premier présupposé, selon lequel tout observateur est un être humain, on aura bien une manière de rendre compte de la distinction entre les termes observation et détection. D'autre part, privilégier ce premier présupposé aura pour conséquence que la physiologie qui décrit des processus d'observation en tant qu'ils se manifestent spécifiquement dans le corps humain, la physiologie fournira une caractérisation spécifique adéquate et pertinente pour déterminer les conditions d'application du terme observation. Donc on voit à chaque fois qu'il va s'agir de sélectionner certains faits pour restituer une cohérence maximale entre les différents faits linguistiques et empiriques mis au jour dans le premier moment de l'enquête. De cette manière, la philosophie peut nous fournir une compréhension de nos usages, de nos représentations linguistiques, et une compréhension spécifique qui est liée à au fait de restituer la cohérence systématique dans nos usages entre les différents types de faits linguistiques et empiriques. Et en ce sens, il me semble tout à fait approprié de dire que la philosophie est systématique. Plus précisément, ce caractère systématique de l'analyse philosophique tient au fait qu'elle produit une compréhension cohérente et systématique en se situant à cette interface d'une analyse linguistique et factuelle. Et on voit bien qu'il ne s'agit pas là de résoudre des questions purement terminologiques, puisque le type de principe que l'on va mettre au jour aura des conséquences également sur le type d'enquête empirique ou de fait empirique qui va être pertinent, ou sur le type d'action que l'on va pouvoir entreprendre sur la base de la clarification philosophique. Alors, rapidement, je voudrais présenter un autre exemple qui est celui de la manière dont Jim Woodward récemment rend compte de la notion de causalité et du problème traditionnel de la causalité. Je ne vais pas m'intéresser au type de réponse spécifique que Woodward apporte à la question de savoir qu'est-ce que la causalité, mais plutôt à la démarche qu'il adopte pour tenter d'apporter une réponse à cette question. Alors, une première étape consiste, selon Woodward, afin de gagner une compréhension de la notion de causalité, consiste à délimiter les contextes dans lesquels ce terme est employé. Et Woodward remarque que cette notion et les notions associées figurent de manière prééminente dans le contexte du langage ordinaire et dans celui des sciences spécialisées, telles que la médecine, par exemple, lorsqu'on dit que tel remède est ou non la cause de la guérison de telle maladie, la biologie, lorsqu'on affirme qu'un gène est la cause de telle maladie, etc. Donc, une fois qu'on a identifié ces contextes, on peut se demander quel est l'objectif visé par l'usage de la notion. Woodward affirme ainsi, je cite, « Lorsque le problème de la cohérence ou de la légitimité d'une notion se pose, un procédé heuristique utile consiste à se demander de quoi la notion est censée se différencier, qu'est-elle censée exclure ou écarter, quelle différence tentons-nous de faire lorsque nous l'utilisons. Je pense que lorsque le terme « cause » et les notions associées sont utilisées dans les sciences particulières et dans les contextes de sens commun, très souvent le contraste pertinent est avec de simples corrélations » ou association. Donc le point important ici, me semble-t-il, est ce terme de contraste pertinent, comme je l'ai évoqué également pour la notion d'observation scientifique. Sur la base de la cartographie des faits disponibles, il va falloir identifier quels sont les faits pertinents à partir desquels on va pouvoir retracer ou restituer la cohérence et la systématicité. Donc, Woodward propose, sur la base de cette analyse des contextes d'occurrence des notions de causalité, une conception interventionniste qui consiste à dire de manière schématique que X cause Y si et seulement si, sous une intervention qui modifie la valeur de X et sans qu'aucune autre intervention ne se produise, il y a une modification associée dans la valeur de Y. Il devient alors nécessaire de préciser ce qu'on entend ici par observation ou manipulation. C'est une question épineuse qui donne lieu à de nombreuses discussions et débats. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le point qui me semble important est que cette définition permet de mettre au jour les conditions d'application du concept de causalité sur la base d'un type d'usage qui en est fait, puisqu'elle prend comme point de départ une identification des contextes dans lesquels la notion est utilisée. et en faisant référence à des caractéristiques empiriques spécifiques des faits désignés. Il ne s'agit donc pas d'une simple définition terminologique, mais d'une définition qui a des conséquences sur le type de fait considéré et identifié lorsque l'on parle de processus causaux, et également sur le type d'action ou sur le type de pratique qui va découler de cet usage de la notion de causalité. Donc il s'agit en aucun cas d'une simple question linguistique, même si un moment décisif de l'analyse consiste à mettre au jour la manière dont nous utilisons ce terme et donc prend appui également sur un certain nombre de faits linguistiques. Alors, Woodward caractérise sa position dans les termes suivants. Il affirme, je cite, « Ma position générale est pragmatique. Les notions causales sont légitimes dans tout contexte dans lequel nous pouvons expliquer pourquoi elles sont utiles, quelles tâches elles effectuent et comment leur application est contrôlée par des données. » Le terme anglais ici est « evidence ». Donc, il me semble que cette citation récapitule ces différents aspects et ces différentes implications de l'analyse philosophique. Et on voit que de cette manière, en mettant au jour de tels principes, l'alternative conventionnalisme-factualisme est finalement dépassée et on a également une position qui repose sur une conception renouvelée du rapport entre fait de langage et fait naturel. Donc, le point qui me semble important dans cette conception de la philosophie est que les résultats de l'analyse ne consistent pas dans l'imposition de normes a priori, mais bien dans la compréhension, sur la base d'un ensemble de faits pertinents, des principes qui déterminent nos représentations, et notamment nos représentations linguistiques. Ce qui est décisif ici, c'est que ça signifie que les résultats de l'analyse philosophique peuvent être évalués selon certains critères, et notamment un critère d'adéquation par rapport à ces faits qui ont été mis au jour et qui constituent la base de l'enquête. Donc il n'y a pas ici de position qui consisterait à dire il est possible de formuler des principes ou des normes de manière purement conventionnelle. Non, c'est à partir des faits mis au jour et de manière adéquate et d'une manière telle que la cohérence entre ces différents faits peut être restituée, de telle manière à ce que la place et la relation de chacun des faits par rapport aux autres puissent être comprises et formulées clairement. C'est sur la base donc, d'un tel critère que les résultats de l'analyse philosophique peuvent être évalués. Ce type de position s'oppose également aux deux positions du naturalisme et de la philosophie linguistique que j'ai caractérisées plus haut, puisque le naturalisme résultait finalement dans l'imposition d'une normativité des faits scientifiques, comme je l'ai montré, et la philosophie linguistique consistait d'autre part soit à imposer des normes de l'extérieur, dans le cadre de la reconstruction rationnelle, soit à rejeter toute normativité au profit d'une simple description de nos usages. Donc le type de position que j'ai essayé de caractériser de manière générale et d'illustrer avec les deux exemples de l'observation scientifique et de la causalité, englobe à la fois et dépasse chacun de ces types de positions. Une analyse satisfaisante et adéquate devra être menée, j'insiste sur ce point, qui me semble important, selon un souci de cohérence maximale. Le philosophe se devra à la fois de prendre en compte l'ensemble des faits pertinents pour la question devant être traitée, et ce qui nécessitera parfois certains ajustements. Ça nécessitera de mettre de côté certains faits qui peuvent entrer en conflit avec d'autres, mais à chaque fois de déterminer pourquoi et comment et quel est le type de relation ou d'articulation entre ces différents types de faits. Le point important également est que dans une telle perspective, tous les faits sont sur le même plan. On ne considère pas que les faits linguistiques sont premiers par rapport aux faits ou aux phénomènes naturels, mais on ne considère pas par ailleurs que les faits tels qu'ils peuvent être décrits par les sciences sont premiers ou seraient la pierre de touche de l'analyse philosophique. Le but de l'analyse est au contraire de restituer leur cohérence d'une façon transversale et non pas en considérant qu'un type de fait va constituer le fondement des autres, par exemple les faits scientifiques, le fondement de nos usages ou les usages, le fondement des faits naturels, pas plus que la philosophie ne vient imposer une explication abstraite et a priori et transcendantale qui viendrait unifier par-dessus, si je puis dire, l'ensemble des faits pertinents. Une autre implication de ce type d'approche est le fait que l'analyse présente un caractère holiste, au sens où, comme je l'ai dit, il s'agit de restituer les relations et de mettre au jour les principes entre un ensemble de faits, et nos pratiques et les différents types de faits étant interreliés entre eux. Comprendre ces pratiques et nos représentations implique de comprendre l'ensemble de ces relations. Mais d'un autre côté, il s'agit bien évidemment d'un holisme modéré, dans la mesure où il n'est pas nécessaire de comprendre tout l'ensemble de ces relations et tout l'ensemble des faits mis en jeu, ou en jeu dans le problème, afin d'avoir une compréhension spécifique de la question considérée. La compréhension peut au contraire s'effectuer par étapes successives, et ça a pour conséquence que le souci de cohérence, qui guide également l'enquête, impliquera qu'il est possible de procéder à des réajustements ultérieurs lorsque l'on en vient à une étape ultérieure de l'analyse, et on retrouve également le sens auquel la philosophie est systématique. Il s'agit de produire une compréhension systématique de l'ensemble de nos représentations, mais cette compréhension peut s'effectuer par étapes. Alors, pour terminer, je voudrais dire deux mots sur la question du pluralisme en philosophie, qui est également une question importante et que Jacques Bouvresse a traité en détail dans son cours consacré donc à la question des systèmes philosophiques. Et ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il y a à mon sens plusieurs manières d'envisager cette question du pluralisme en philosophie. Huysmans considère par exemple que le pluralisme philosophique se pose en termes de différents systèmes d'axiomes philosophiques incompatibles, qui serait vrai du point de vue interne du système, mais non pas d'un point de vue externe, et donc entre lesquels il est possible de choisir librement, sans qu'il y ait possibilité de dépasser l'irréductibilité des différents systèmes philosophiques, qui sont autant de systèmes d'axiomes partant de chacun de principes et de présupposés ontologiques fondamentaux non compatibles entre eux. Donc c'est une question, enfin, Jacques Bouvresse a consacré de longues analyses à cette position défendue par Huysmans. Carnap, d'un autre côté, affirme qu'il est possible d'élaborer différents cadres linguistiques, là encore irréductibles et incompatibles entre eux, et entre lesquels il est également possible de choisir, mais il n'est pas possible de choisir de manière autre que pragmatique, puisque ces différents cadres linguistiques n'ont pas le statut de vérité. Donc, aussi différentes qu'elles soient, ces deux positions, quant à la question du pluralisme en philosophie, se rejoignent, à mon sens, en ce qu'elles présupposent chacune une certaine conception du rôle de la philosophie. Et dans un second temps, au sein de cette conception du rôle de la philosophie, ces deux positions consistent à affirmer qu'il y a différentes positions philosophiques possibles, incompatibles entre elles, et entre lesquelles il n'est pas possible de choisir de manière autre que pragmatique. Je pense, pour ma part, que une fois que l'on a accepter le type de conception de la philosophie que j'ai essayé de proposer et d'expliciter, il n'y a pas de pluralisme irréductible, dans la mesure où, comme j'ai essayé de le montrer, il y a bien des critères d'évaluation des résultats philosophiques, à savoir la cohérence et la restitution de la systématicité des faits pertinents pour l'enquête et le problème philosophique considéré. Donc il y a bien des critères d'adéquation de l'enquête philosophique et sur la base desquels les résultats peuvent être évalués et sur la base desquels il est possible de considérer que certains résultats sont plus adéquats que d'autres. En disant cela, je n'affirme pas et je ne pense pas du tout que les résultats philosophiques aient le statut de vérité, au sens où il s'agirait de mettre au jour des principes qui seraient vrais, puisqu'ils pourraient être dans un rapport de correspondance à un ensemble de faits. Je ne pense pas que le statut de ces principes, la relation de ces principes aux faits, soit une relation de correspondance, mais plutôt une relation d'adéquation, dans la mesure précisément où ces principes restituent la cohérence entre les faits, mais ne sont pas transcendants ou dans une position qui permettrait d'évaluer leur correspondance à ces faits. Ils sont transversaux et se posent plutôt en termes de restitution de la relation transversale entre ces différents faits. En revanche, pour cette question du pluralisme philosophique, je pense que je serais prête à affirmer, quelque chose qui demanderait à être discuté, hein, mais à affirmer que la tolérance peut être exercée en ce qui concerne la conception et différentes conceptions possibles du rôle de la philosophie. J'ai essayé de proposer une conception du rôle de la philosophie dans cet exposé qui est resté général et qui, comme je l'ai dit au début, je le répète ici, c'est important, ne sera validée et n'est pertinente, me semble-t-il, que dans la mesure où elle peut être appliquée à l'examen de questions particulières qui permettront de lui donner un contenu substantiel à cette conception très générale que j'ai présentée ici. Mais néanmoins, je serais prête à être tolérante et à considérer qu'il y a plusieurs façons possibles d'envisager le rôle de la philosophie et plusieurs façons pas nécessairement compatibles entre elles, et qu'à ce niveau-là, donc au niveau du rôle et de ce en quoi consiste véritablement la pratique philosophique, il y a un véritable pluralisme qui n'est pas nécessairement, et dont il n'est pas nécessairement souhaitable qu'il doit être dépassé. Cependant, je tiens à préciser qu'une telle tolérance implique, à mon sens, certaines contraintes ou certaines restrictions, si l'on veut. D'une part, que l'on énonce clairement quel est le rôle de la philosophie, ce que vise et ce en quoi consiste la pratique philosophique. On ne peut pas se contenter de dire « oui, il y a d'autres conceptions, mais sans les expliciter ». Et d'autre part, qu'il est possible de faire un choix fondé sur des considérations pratiques entre différentes manières et différents types, différentes façons de pratiquer la philosophie pour des buts donnés et des objectifs considérés. Donc là encore, on soit clair sur le type d'objectif visé par l'analyse philosophique qui, à mon sens, doit avoir ne pas se contenter de simples spéculations non fondées et qui ne sont pas articulées en vue d'un objectif déterminé. Voilà, donc il s'agit, selon moi, de deux exigences non triviales et contraignantes qui limitent le champ des possibles sans pour autant conduire à une position dogmatique, mais en gardant une position tolérante à l'égard des différentes manières possibles de pratiquer la philosophie. Voilà, je vous remercie.